franceinter.fr.
Montréal! Ça, c'est le logo de la ville de Montréal. Et c'est pour ça que vous l'avez sur vos bacs de recyclage, puis vos poubelles et vos choses comme ça. Ça, c'est le logo.
L'attachement du Québec pour la France. Un bain de foule où le président Hollande s'est prêté au jeu des selfies.
Bonjour. Les Français sont de plus en plus nombreux à émigrer et le phénomène s'est accru ces 10 dernières années. Parmi les destinations les plus prisées, le Canada figure en bonne place. D'après les derniers chiffres officiels publiés en 2013, on estime à 150 000 le nombre de Français installés dans ce pays. Dans leur grande majorité, ils optent pour la province du Québec, sans doute pour des raisons de proximité historique et linguistique. Le Canada est souvent présenté comme une nouvelle terre promise pour les jeunes actifs ainsi que pour tous ceux qui veulent tirer un trait sur le climat économique et social plutôt morose qui règne en France. Les immigrants français tentés par le rêve canadien sont en moyenne plutôt jeunes, entre 25 et 40 ans, plutôt célibataires, davantage masculins que féminins et avec un haut niveau de qualification professionnelle. Ils sont attirés outre-Atlantique par la perspective de trouver plus facilement un emploi, les grands espaces, un cadre de vie agréable, et pour certains par la proximité des États-Unis. Pourtant, rien n'est gagné d'avance pour les Français qui débarquent à Montréal et qui viennent grossir les rangs des 100 000 Frenchies que compte la deuxième plus grande ville du Canada. Les obstacles à leur intégration sont nombreux et d'abord administratifs. Pas facile d'obtenir le visa adéquat pour prolonger son séjour sur place. Pas toujours facile non plus de trouver un emploi et de faire reconnaître des diplômes et des expériences françaises, le Canada ayant une politique d'immigration professionnelle choisie très sélective. Expatrié français, le rêve canadien, c'est un reportage d'Élodie Vergelati.
Interception, le magazine de la rédaction.
Je m'appelle Marianne, j'ai 30 ans, depuis 4 ans et demi au Canada.
Alors Marianne, dites-moi, en quoi est-ce un jour vraiment particulier pour vous en tant qu'émigrée française au Canada ?
Aujourd'hui, c'est la consécration de mon immigration. C'est sur ce que j'ai travaillé depuis 4 ans et demi, de franchir toutes les étapes administratives pour devenir canadienne.
Est-ce que vous êtes stressée à quelques minutes du test ? Comment vous vous sentez ?
Je suis pas plus stressée que ça. J'ai beaucoup travaillé sur le test et sur les questions qui portent sur la culture et l'histoire et la politique du Canada. On va y aller comme ça, on va voir si ça marche. Et puis si ça ne marche pas, on viendra dans plusieurs mois pour refaire le test.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Bye.
Bye.
Bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, futures canadiennes et futurs canadiens. C'est un immense bonheur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à votre cérémonie de citoyenneté canadienne. Car je peux l'imaginer, c'est un grand jour pour vous qui deviendrez des Canadiennes et des Canadiens au cours des prochaines minutes. This is your day. You are winners. Vous êtes des vainqueurs. Votre présence ici aujourd'hui confirme que vous avez le courage et la sagesse nécessaires pour vous adapter au Canada. J'aimerais donner un mot d'encouragement à toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi. Gardez courage. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que vous n'obtiendrez pas immédiatement l'emploi de vos rêves. Malheureusement, quelquefois, il faut rétrograder un peu pour mieux avancer. C'est un passage obligé, c'est difficile. Gardez courage. Les autres personnes. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun obstacle à l'emploi. Alors, si vous convoitiez un emploi qui vous demandait d'être canadien, dans 2 minutes, ça va être réglé. Vous allez pouvoir cocher oui. Dear friends, to summarize and to conclude, you need Canada, but remember, Canada also needs you. Thank you. Merci. Je jure ou j'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs.
Marianne a attendu quelques années avant de pouvoir devenir canadienne. À son arrivée en 2010, contrairement à beaucoup d'expatriés, elle ne choisit pas Montréal comme point de chute, mais une ville moyenne de Montérégie, une région du Québec située à l'est de Montréal. Pour réussir son intégration, elle s'entoure de Québécois plutôt que de Français. Et sur le plan professionnel, elle ne ménage pas non plus ses efforts. Elle enchaîne les petits boulots, fleuriste, cueillette des fruits. Elle reprend même ses études et passe un diplôme canadien de comptabilité. Elle a vite compris que sa formation française ne serait pas forcément reconnue dans son pays d'accueil.
Particulièrement émouvant cette cérémonie avec la juge et le fait de prêter serment à la couronne britannique, à la reine Elisabeth II. Ça, c'était un moment d'émotion pour vous, ce protocole-là?
C'est un protocole qu'on pourrait penser que c'est suranné, mais finalement, ça a quand même toute sa signification et ça fait partie de la vie d'un bon Canadien qui prête allégeance à sa reine, qui aime sa reine. Et j'ai aucun problème avec ça.
Bon, j'imagine que vous allez fêter ça dignement avec des amis qui sont peut-être québécois. Quels sont les préparatifs de la soirée pour célébrer ça dignement?
Bah, un petit peu arroser ça avec de bon alcool français qui va être du bon pastis. Et puis si on trouve quelque chose d'un peu canadien sur la route, on va peut-être acheter un petit alcool canadien.
Marianne, vous êtes arrivée comme immigrée française au Canada il y a combien d'années et expliquez-moi ce que représente le fait de devenir citoyenne canadienne. Est-ce que c'est l'aboutissement d'une immigration? Est-ce que c'est l'aboutissement d'un processus d'intégration qui a demandé des efforts, j'imagine, de votre part?
Je suis arrivée il y a 4 ans et demi au Canada, simplement avec une petite job pas très bien payée qu'on m'avait proposé et j'ai gravi les échelons, j'ai repris des études plutôt deux fois qu'une et j'ai acquis plus de savoir-faire et d'expérience pour avoir des emplois qui sont mieux rémunérés. C'est un long parcours, c'est un parcours où il faut être quand même assez humble et assez fort dans sa tête pour pouvoir passer à travers ces épreuves-là et pour pouvoir se sentir grandir et avoir l'impression qu'on avance plutôt qu'on a l'impression de reculer.
Nous quittons Marianne, nous la laissons savourer son Graal, sa nouvelle citoyenneté. Et nous retrouvons Jeanne Hermine pour un brunch à Rosemont Petite Patrie, un quartier central bordé de parcs et de jolies maisons. Jeanne Hermine a 26 ans, elle s'est installée à Montréal il y a 7 mois grâce à un visa permis vacances-travail. Le visa PVT est très demandé par les jeunes diplômés du monde entier. Il permet de séjourner au Canada et d'y chercher du travail pendant 2 ans. Pour l'obtenir, il faut avoir entre 18 et 35 ans, posséder au moins 2 500 $ canadiens sur son compte, aucun critère de diplôme ou de métier requis, mais une fois sur place, c'est loin d'être l'Eldorado. Pourquoi vous avez décidé de quitter la France? Quelle était votre vie professionnelle là-bas? Est-ce que c'était difficile de trouver un emploi? Est-ce que du coup vous vous êtes dit « je serais plus chanceuse si je pars à Montréal »
Donc moi en France, j'ai eu un master de stratégie de communication globale. Donc du coup j'ai travaillé pendant pratiquement 2 ans dans une même entreprise où je suis passée de stagiaire à chargée de communication. Puis j'ai même eu la chance de remplacer ma responsable communication qui était en congé maternité. J'aurais voulu que ça continue mais malheureusement après les 2 CDD ils n'ont pas pu me faire un CDI. Donc j'étais en recherche d'emploi pendant environ 4 mois, ça a été assez dur comme processus. J'ai retrouvé un emploi mais c'était juste un remplacement et c'est à ce moment-là aussi que j'ai su que j'avais le PVT. Donc je me suis dit bon c'est la chance de ma vie, il faut vraiment que je parte. J'ai toujours eu envie d'habiter dans un autre pays. J'ajoute aussi que c'est un projet commun. Je suis partie avec mon conjoint et on avait vraiment le projet de partir tous les deux de la France.
Expliquez-nous, Jeanne Hermine, comment s'est passée votre insertion professionnelle. Est-ce que vous êtes confrontée à une série d'obstacles?
Oui, alors donc je suis arrivée, comme je vous l'ai dit, mi-juin. En mois d'août, j'ai réussi à décrocher un emploi en tant que testeuse de jeux vidéo. Donc ça m'a beaucoup plu parce que j'ai pu progresser sur mon anglais. C'était aussi le but d'avoir choisi Montréal, de prendre une ville totalement bilingue pour pouvoir améliorer mon anglais. Ensuite, ils n'ont plus de besoin, malheureusement. Donc là, j'ai vraiment envoyé beaucoup de CV, j'ai fait beaucoup de réseautage, comme on appelle ici, c'est-à-dire ajouter des gens sur LinkedIn, essayer de les rencontrer, etc. Grâce à ce réseau, en fait, j'ai pu participer à des événements. Suite à ces événements, je me suis dit que ça serait une bonne idée de créer un blog. Donc j'ai créé un blog et j'ai été invitée à d'autres événements pour pouvoir faire justement des comptes rendus de ces événements. Donc voilà, j'essaye de faire le plus de choses possible pour pouvoir me faire connaître, avoir un nom et trouver un travail plus facilement.
C'est bon, on peut commander. Hein. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que je peux vous offrir ?
Moi, je vais vous prendre un thé. Est-ce que vous avez un thé menthe verte ?
Oui, moi, ouais. Intéressant.
Ouais, très bien, mais je vais prendre ça.
Et moi, je vais vous prendre la même chose. Hein. Ce sera pas mal. Ouais.
Suite à vos différents entretiens, est-ce que vous diriez qu'il y avait une forme de méfiance de la part des employeurs québécois vis-à-vis de votre statut de PVTiste française ? Est-ce que ça revient souvent dans la démarche ?
Oui, en fait, la première question avant d'avoir un entretien que j'ai par téléphone, c'est tout de suite sur quel visa vous êtes. Si on est sur le côté PVT, ils vont être très méfiants, donc là, il faut les rassurer parce que je sais que ça peut être un motif, si on peut dire, d'être refusé. Puis surtout, il ne faut pas oublier que c'est peut-être nos cousins, mais c'est des cousins éloignés au Québec. On n'a pas du tout la même mentalité, les entretiens ne se passent pas forcément pareil. Et surtout, on peut penser qu'on a le job, et finalement, pas du tout.
On a bien compris qu'il y avait une forme de précarité dans votre situation actuelle. J'aimerais savoir où en sont vos finances.
Le côté finance, c'est pas tous les jours marrant parce que on avait réservé un petit peu d'argent pour tout ce qui est justement payer les frais de résidence permanente, payer les frais pour l'autre visa. Les petits jobs, c'est pas toujours facile. Moi, je vois, j'ai été voir à ma boulangerie dans ma rue et je leur ai envoyé mon CV. La personne était super enthousiaste, m'a dit « Ah oui, on vous rappelle demain, ça va nous intéresser ». En plus, apparemment, leur patron avait aussi travaillé pour la même entreprise que moi en France, etc. Et j'ai jamais eu de nouvelles.
Vous la qualifieriez de comment cette expatriation et ces premiers mois d'intégration ?
C'est sûr que quand on entend dans les journaux français, souvent tout le monde s'expatrie au Canada et plus particulièrement à Montréal où c'est l'Eldorado, on peut trouver un travail en 5 minutes, etc. Moi ça me fait un peu rigoler parce que c'est vrai que sur le terrain c'est pas forcément pareil. Moi je suis très optimiste même si effectivement c'est pas tous les jours facile. J'ai pas envie de m'attrister sur mon sort. J'ai quand même une chance incroyable, celle qui est d'être ici, de pouvoir vivre à Montréal, au Canada. Je sais pas, moi ça me plaît et j'ai pas envie de céder à la dépression ambiante dès qu'on regarde les infos, justement ici, par rapport à tout ce qui se passe en France.
Montréal, ça c'est le logo de la ville de Montréal et c'est pour ça que vous l'avez sur vos bacs de recyclage puis vos poubelles et vos choses comme ça. Ça c'est le logo qu'on a inventé pour représenter la ville. On a le drapeau et on a cette fleur là. Alors celle-là, je le mets ici.
Direction le vieux Montréal maintenant, à quelques blocs du port qui longe le fleuve Saint-Laurent et des rues pavées fréquentées par les touristes, se dresse un bâtiment ancien du 19e siècle avec un drapeau français à son fronton. C'est là qu'est installée l'Union française de Montréal, une association philanthropique fondée en 1886 pour aider les immigrants français nécessiteux. Aujourd'hui, l'association oriente les expatriés dans leur démarche d'intégration. Marie-Anne Bouygues, coordinatrice chargée des projets culturel, mais aussi bénévole, est une mine de conseils pour les nouveaux arrivants qui ont parfois le sentiment de piétiner.
Le manque de préparation, ça veut dire ne pas savoir où on met les pieds. Ça veut dire ne pas savoir que la culture est différente, que la langue cache des écueils qui sont culturels, qui sont d'ordre historique. Donc il faut se préparer à ça. Et souvent les gens ne sont pas préparés. Parce qu'on voit aussi des gens qui viennent fuyant un petit peu les problèmes économiques en France. Et moi, je me souviens de l'exemple d'un couple. Sa femme travaillait, visa de résident permanent. Lui n'arrivait pas à s'intégrer. Mais il n'arrivait pas à s'intégrer, mais il était dans le... Disons, pas dans la critique, mais il était déçu. Mais le processus, c'est de savoir pourquoi il est déçu. Il n'était pas préparé, il ne faisait pas de contact. Ici, il y a deux mots très très importants, c'est bénévolat, réseautage. Ça fonctionne.
Vous diriez que la pire attitude, c'est quoi quand on veut venir ici et qui, de fait, explique pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est la réputation que nous avons, Français, d'être un peu arrogants, de prendre les choses un peu de haut, ou alors de prendre les choses pour acquises, pour faciles?
Effectivement, quand on pense avoir le permis, on pense que c'est gagné. Mais c'est comme quand on obtient un diplôme, comme lorsqu'on arrive à un nouveau poste, en fait, tout commence. Mais on ne peut pas expliquer avec des mots, quoi. C'est des situations qui doivent être vécues. Ici, les gens ne parlent pas fort, les gens ne s'agressent pas, ils marchent moins vite. Donc ça, c'est des choses qui se perçoivent petit à petit, qu'on apprend petit à petit.
Je vous vois un peu comme un sas de décompression entre l'étrangeté pure, l'altérité, je débarque dans un endroit inconnu où je n'ai pas de repère, et puis ce confort du cocon de la communauté française qu'on recrée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous diriez que vous êtes cette zone où l'équilibre va se faire entre l'inconnu et le connu, le familier, ce qu'on découvre?
Oui, je pense que nous sommes une porte d'entrée. Un sas, effectivement. Un sas où les gens peuvent arriver avec leur bagage, essayer de comprendre ce qu'ils doivent laisser dans leur bagage. On va leur donner un petit peu les clés. Un point intéressant aussi, c'est qu'étant donné le grand nombre de nouveaux arrivants jeunes, on a monté un comité jeunesse. Et donc le but, c'était de rassembler tous ces jeunes français qui arrivaient, qui ne se connaissaient pas forcément, en leur proposant des soirées festives. Donc on a une grande salle de spectacle de 250 personnes. En plus, ces jeunes s'impliquent aussi dans l'association, aussi souvent. Ils s'impliquent en bénévolat. Après, nous, ce qu'on fait aussi au niveau du bénévolat, c'est qu'on leur procure une attestation de bénévolat qui peut les aider après dans leur recherche d'emploi. Ça a été le cas. Une jeune qui nous faisait les affiches pour les activités, on lui a fait une lettre, une attestation. Et comme je vous disais, le bénévolat est reconnu comme une expérience professionnelle. Puisque la difficulté que les gens ont pour trouver du travail ici, c'est qu'ils pensent que comme ils ont un cursus ou une expérience professionnelle intéressante en France, ils vont pouvoir la transposer. C'est pas le cas. C'est l'expérience québécoise qui est souvent reconnue. Donc ce bénévolat permet d'attester une expérience québécoise.
Thank you. You have a good day now.
Exactement, ça tombe bien. Bonne journée.
Oui, j'ai vu par ton rôle, mais finalement.
Les boulots alimentaires, le bénévolat, ce n'est pas un passage obligé. Certains expatriés se débrouillent bien, très bien même. C'est le cas de Michael. Il a largué un CDI rasoir en France pour tenter sa chance au Canada. Il a rapidement trouvé du travail dans sa branche et cette réussite, il la doit à un secteur dynamique, le web, et à une démarche proactive, comme il dit.
Possible à Montréal, un mélange pluie-neige qui va bien nous rester 2 à 5 cm de neige au sol.
Alors moi, c'est Michael, j'ai 29 ans. Je suis chef de projet en web marketing pour une compagnie qui a des activités en ligne. Alors, je suis originaire de Lille, nord de la France, et je suis arrivé à Montréal en juillet 2013. Avant de venir à Montréal, je travaillais à Paris pendant 3-4 ans, et je trouvais qu'au fur et à mesure, je perdais en qualité de vie. Donc j'avais envie de retrouver quelque chose qui me... une sorte de challenge dans ma vie, c'est-à-dire nouveau travail, nouvelle entreprise, et puis découvrir autre chose. Au cours de ma vie et de mes expériences, j'ai pas mal voyagé et je voulais retrouver ce sentiment de perte de repère, de sortir ma zone de confort. Alors pourquoi le Canada et pourquoi Montréal? Le Canada, ça fait quelques années que j'ai ça en tête, découvrir ces grands espaces, on a tous en tête ces paysages, hein, tout ça. Et Montréal pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que j'ai eu déjà des bons retours de la part d'amis qui ont vécu ici. Montréal est également la ville la moins chère parmi le top 3 des villes canadiennes, comparé à Vancouver et Toronto. J'avais une expérience également dans tout ce qui était jeux vidéo et web. Donc Montréal est pas mal positionné par rapport à ça, puisqu'il y a toutes les compagnies de jeux vidéo ici. Et également, j'avais 2-3 connaissances déjà sur place, et je me suis dit que ça pouvait faciliter mon installation. En fait, je voulais ne rien laisser au hasard. C'est-à-dire que je prenais un risque en quittant un emploi, un CDI en France, Mais c'est un risque calculé.
L'installation à Montréal et la recherche d'emploi, ça se passe comment les premiers jours, les premières semaines? Est-ce que vous faites partie de ces PVTistes, pas si nombreux que ça malheureusement, qui ont trouvé rapidement du travail dans leur branche?
Effectivement, j'ai trouvé assez rapidement, puisque, comme dit, j'avais beaucoup préparé. C'est-à-dire que moi, je suis venu au Canada, mon CV était déjà prêt au format canadien. Mes lettres également, elles étaient à la fois en français et en anglais. Et j'avais déjà constitué une sorte de base de données, de contact, ce qui m'a permis d'aller très vite. Et puis en étant sur place, de pouvoir aller aux entretiens, etc. En fait, ici, non seulement personne connaît votre école, votre formation, mais personne va faire confiance à première vue à quelqu'un qui débarque et qui ne connaît rien au marché local, etc.
Le quotidien, dans votre travail, en quoi est-ce qu'il est différent du quotidien en France?
Alors oui, c'est différent par rapport en France, puisque en fait, on sent une hiérarchie qui est beaucoup moins lourde. D'ailleurs, on ne sent presque pas la hiérarchie, pour être honnête. C'est-à-dire que quand je compare l'entreprise pour laquelle je travaillais à Paris et celle ici, qui est beaucoup plus grosse d'ailleurs, la compagnie ici. Donc à Paris, j'étais dans une entreprise qui faisait 150 employés à peu près. Ici, c'est 350. J'ai l'impression d'être beaucoup plus proche du top management que ce que je connaissais à Paris.
Il y a une autre donnée aussi spécifique au marché du travail québécois, et il ne faut pas l'occulter, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que si on est compétent, si on travaille dans une branche qui est porteuse, on peut trouver facilement, on est vite embauché, mais on est aussi vite remercié.
Moi, j'avoue que j'ai absolument rien contre ça, au contraire. Ok, c'est jamais agréable d'être licencié, mais ce ne sera pas la fin du monde pour une personne qui est licenciée ici, puisqu'elle trouvera assez facilement une entreprise différente. Mais voilà, il y a une certaine liberté ici, et je pense que chacun, que ce soit les employeurs et les travailleurs, trouvent leur intérêt dans cette organisation.
Alors bon, Michael, vous l'envisagez comment l'avenir? Vous l'envisagez où d'abord?
Alors c'est difficile de savoir où je serai dans quelques années. Très honnêtement, je ne saurais pas répondre. Moi, ce qui est sûr, c'est que je me sens bien ici. Si un jour je m'aperçois que j'ai besoin de changement, que j'ai besoin d'autre chose, là je réfléchirai éventuellement à bouger. Donc là, présentement, l'idée est de faire les démarches pour rester le plus longtemps possible et que l'administration ne soit pas un obstacle. C'est-à-dire que si je dois partir, je veux que ce soit moi qui décide de partir plutôt qu'un papier qui me dise « telle date, tu pars ».
Partir, tout quitter. Un bel appartement, une vie confortable à Lyon, embarquer les enfants dans ce changement de vie, prendre la décision en une heure à peine, dans la cuisine, sans un regret. C'est arrivé à Marie, Hervé et à leurs deux garçons Luc et Paul il y a environ 5 ans. Le nouvel employeur d'Hervé au Canada, une entreprise de jeux vidéo, se charge de tout à l'époque. Déménagement, contrat de travail, visa, et c'est toute une famille qui fait le grand saut.
Le choc, c'était quand même de mes parents qui m'ont mis dans le train. Puis j'ai réalisé que cette fois-là, là, j'allais pas les revoir dans un week-end ou deux. Je trouve ça difficile, moi.
Oui, ça c'est sûr que s'éloigner de sa famille, c'est sans doute ce qui est le plus difficile, en fait. Moi, c'était pas le jour du départ, c'est plutôt l'excitation. C'est juste après avoir franchi le point de non-retour, où là, c'était un petit peu dur. Quand on a vendu l'appartement, la voiture, toutes les attaches matérielles, qui représentaient quand même une forme d'aboutissement, parce qu'on avait investi beaucoup de notre temps, puis notre argent dans l'appart, etc. Le fait d'avoir tout vendu, le lendemain, là, on se dit peut-être qu'on a fait une connerie, mais ça dure, je sais pas, une journée, même pas. Et une fois qu'on a envoyé tous nos meubles, tout ça, il nous restait les sacs à dos, quoi, pour partir. Et là, c'est un gros sentiment de libération, en fait. Quand on n'a plus aucun bien matériel, là, d'un coup, on se sent super libre et c'est vraiment une renaissance, quoi.
Est-ce que vous diriez que le processus a été long? Je ne sais pas, moi, les 4-5 premiers mois, Marie, on se sentait comment à la maison, les journées, comment on les occupe?
Moi, j'ai trouvé ça très difficile tant que je n'ai pas travaillé. Parce que j'étais vraiment personne, je connaissais personne. J'étais toute la journée à la maison avec mon fils Paul qui n'avait pas de place en garderie. Lui, il vivait pas bien ça parce qu'en France, il était à l'école, donc il avait aussi l'interaction. Là, il se retrouvait tout seul avec moi. Tout au début, là, tout est compliqué. On n'a pas de carte de crédit, on n'a pas de carte de débit. Il faut aller à la banque. Ça durait un mois quand même avant qu'on ait tout ce qu'il fallait. Puis au début, quand on arrive comme ça dans un pays étranger, puis qu'on doit s'installer, toutes les émotions sont comme démultipliées. C'est-à-dire que tout ce qui provoque du bonheur, c'est comme multiplié par mille. Mais la moindre contrariété, moi, ça me mettait dans tous mes états. Donc, j'étais allée au Dolorama, puis j'avais une carte française, puis elle passait pas. Puis là, c'était comme la fin du monde. J'étais en larmes parce que je pouvais pas payer mes 3 trucs au Dolorama. J'étais très émotive. Une fois que j'ai eu mon premier emploi, après, ça, j'ai pu réexister vraiment. Mais c'est ça, créer des liens sociaux au départ, c'est pas facile.
Moi, je pense que ça a été plus simple au niveau social, mais il y a quand même un choc des cultures aussi au travail, parce que c'est des méthodes de travail différentes, c'est des habitudes différentes. D'une façon générale, les choses allaient beaucoup plus vite et beaucoup plus d'efficacité dans l'exécution des différentes tâches qu'on peut avoir à faire au travail, notamment en groupe. Aussi le bilinguisme, de façon permanente, souvent dans les mêmes phrases, ça demande un petit peu d'adaptation. Mais sinon, ça a été plutôt facile, des gens très très accueillants, très ouverts, pas vraiment de challenge à ce niveau-là.
En fait, je voudrais que tu lises ça, ça et ça. Tout ce qui est dans les encarts jaunes. Puis que tu recommences parce que toutes les réponses, elles sont... Lis tes questions. Vas-y.
Au cours des années 1950, le premier ministre de Québec porte ce nom de famille.
Tu sais qui c'était le premier ministre du Québec en 1950?
Non.
Ben oui, hein. Effectivement, on n'est pas familier avec l'histoire du Québec. Donc moi, j'apprends l'histoire du Québec en même temps que lui à l'école.
Et en troisième année, t'en as pris un bout avec moi.
Oui.
Un gros bout.
Ça s'est passé comment l'arrivée ici? Surtout, tu sais, à l'école avec les... Est-ce que ça a été dur de te faire des copains?
Non, parce que j'étais premièrement le plus mignon de l'école.
Oh,
ben. Oui. C'est même tous les profs et les trucs qui... Tout le monde qui le dit. Et j'ai fait quelques pas dehors. Et il y a eu un gros mouton de personnes qui sont venues sur moi. Puis mon prof de deuxième année, qui c'est elle qui m'a aidé à respirer. Parce que je ne pouvais plus respirer là.
Quand j'ai su dans quel quartier j'arrivais, de quelle école qui allait dépendre et tout, j'ai rencontré l'institutrice avant. Et en fait... Pour préparer son arrivée, elle a annoncé son arrivée à la classe, puis elle a expliqué qu'il était français, que peut-être il comprendrait pas toujours quand il parlerait vite. Et du coup, il a été accueilli vraiment comme une star, puis tout le monde voulait être son ami et tout ça, c'était vraiment très très touchant.
Mon meilleur ami aujourd'hui, c'est celui qui m'a appris toutes les expressions canadiennes et qui m'a aidé à tout comprendre ce qui passait à l'école. Maman, j'ai déjà lu ça en classe.
C'est quoi?
C'est le devoir. Il faut que je lise ça. J'ai déjà lu.
Il te reste des phrases à faire, c'est bon.
Mes phrases, c'est sur les rails.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Trois provinces en quelques heures. François Hollande vient de terminer une très longue journée de visite officielle. À Québec, le président français a reçu ce soir l'insigne de grand officier de l'ordre national des mains du Premier ministre Philippe Couillard. Et Sébastien, dans leur discours, les deux hommes ont souligné les liens étroits, bien sûr, entre le Québec et la France.
Quand on arrive en France, tout devient très familier. En tout cas, moi, la première fois que je suis rentrée, ça faisait 2 ans qu'on était ici. Tout m'a semblé tellement facile. Je reconnaissais tout. Je sais pas, les panneaux, la signalisation, j'ai trouvé que tout était beau, les portes, les trottoirs, tout était... J'avais comme une espèce de frénésie comme ça. Mais en même temps, c'est plus chez moi non plus. Puis au bout de 2 jours, ben, je me sens plus dans mon élément, puis tout m'agresse assez rapidement.
Et comment on gère la famille ?
La famille, on a beaucoup de chance parce qu'ils viennent, eux, si nous on n'y va pas, eux viennent 2 fois par an en moyenne, 1 à 2 fois par an. C'est ce qui fait aussi la réussite de notre immigration, c'est que nos parents, ils nous ont toujours supportés là-dedans. Et puis, ils viennent nous voir, donc on se sent pas isolé. Puis maintenant, avec Skype, c'est quand même assez facile de se parler.
Le truc, c'est qu'on n'a pas fui la France, non. On aime la France, mais... Si on devait retourner en France, je pense que déjà on retournerait sans doute pas au même endroit et on vivrait plus de la même façon. Ou j'irais dans le sud. La Méditerranée.
Les gars, on va manger. Luc et Paul.
Oui, j'ai demandé à maman si je peux prendre une crème glacée. Elle m'a dit non, prends plutôt un bonbon.
La première année, on a eu moins 40, je pense. Pendant une ou deux journées. Mais c'est bien, c'est fun.
Le premier hiver, c'est plutôt exotique, on va dire. Parce que tout c'est une découverte de tout. Là. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand il fait très froid, il fait très beau. Il y a une lumière qui est absolument magique. Et le ciel est bleu, complètement dégagé. La neige est très blanche, donc c'est très beau.
Un peu comme au pôle Nord.
C'est ça. Tu sors, puis ta première respiration, il y a les narines qui collent, hein? Parce que ça cristallise. Les cils aussi. Mais on s'habitue assez bien. Il faut bien s'équiper. Il ne faut pas oublier son bonnet, hein? Parce que sinon tes oreilles tombent.
Et est-ce que le mode de vie change?
Le matin, il faut prévoir un quart d'heure de plus pour s'habiller, notamment les enfants. Toujours un peu long. Et puis on avance plus lentement parce que soit ça glisse, soit il y a beaucoup de neige, soit les enfants jouent dans les bancs de neige, ils mettent. Ça prend juste plus de temps en fait. Pour tout.
C'est plutôt cool l'hiver. Toutes les rues sont complètement enneigées, puis ça prend des proportions qui sont assez hallucinantes. Donc ça devient un jeu quoi. Tout est plus calme, il n'y a plus vraiment d'écho, donc tous les sons sont adoucis. Et puis effectivement, on doit rouler moins vite, on marche moins vite, tout va moins vite. Donc c'est assez serein, en fait, l'hiver.
Il faut quand même sortir, parce que sinon, on manque de soleil, puis ça tombe sur les nerfs.
Oui, il y a des déprimes l'hiver, en fait. Ouais. Tu peux effectivement avoir un petit état de déprime.
Et justement, vous êtes mis en famille à des activités que vous ne pratiquiez pas forcément.
Oui, le patin à glace. Mais là, le patin à glace, à Montréal, ça veut dire juste aller au parc. Et faire du patin sur le plan d'eau.
Oui, c'est
donc
ça.
L'été, c'est un étang. Ouais. Et l'hiver, c'est, je sais pas, la plus grande patinoire que j'ai jamais vue.
Le hockey, oui. Alors, on s'est mis ou pas dans la famille ou pas trop?
Oui, on regarde. En fait, quand il y a les séries, on regarde. Ouais, ben, notre fils, c'est clairement son sport national.
Il sait pas qui est Zinedine Zidane.
Luc, on va te demander si tu connais un joueur sportif.
C'est qui, Thierry Henry?
Un joueur de soccer, de foot.
Ah non, il est venu jouer à Montréal.
Ah oui, oui. Et tu l'as vu ou pas?
Oui.
Et il joue dans quelle équipe?
New York.
Franck Ribéry.
Aucune idée.
C'est un peu comme s'il y avait une immigration à 2 vitesses. Il y a la vôtre, puis il y a celle des enfants qui forcément est plus rapide. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'ils sont plus québécois que français, ne serait-ce que dans leurs références?
Oui, ils sont clairement plus québécois que français. Ils sont québécois. Vraiment. Même dans la façon de penser. Ça nous a complètement échappé.
Marie et Hervé ont acheté une maison sur le plateau, un quartier prisé par les Français à 2 pas du parc Mont-Royal. À l'origine, hors de question pour eux de vivre au milieu de leurs compatriotes, mais le couple s'est laissé séduire par la qualité de vie du quartier, son ambiance quasi villageoise avec ses fromagers, ses maraîchers. Cette attirance pour le plateau amuse Dany, un Québécois de 40 ans, rencontré chez un coiffeur rue Sainte-Catherine, dans le village, le quartier gay de Montréal.
Allez, arrête.
Je m'amuse à dire que le plateau, c'est devenu la petite France. Parce que vraiment, il y a une concentration très, 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 très élevée de Français qui sont en train d'acheter le plateau. Là. Ils arrivent avec des euros, puis ils achètent, ils achètent des appartements ici à Montréal, puis ils viennent s'établir ici avec leur famille. Tu sais, moi, j'aime autant avoir une force qui vient travailler ici que, puis qui va adopter le français. Que, tu sais, j'ai un penchant parce que c'est sûr que nous, le français, on trouve que c'est menacé. Alors que si les Français arrivent, puis bon, font augmenter le nombre de personnes qui parlent le français sur l'île, ben moi, c'est tant mieux. Là.
En termes d'intégration sociale, est-ce que tu trouves que la plupart des Français que tu connais font un effort pour s'intégrer socialement, adopter la culture, ou est-ce qu'ils restent entre eux?
Ben, ça dépend des cercles. Là. Moi, je pense vraiment qu'il y a des Français qui veulent adopter le mode de vie québécois, puis ils veulent des amis québécois. Ils ne se tiendront pas qu'avec des Français. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont être vraiment ethnocentriques, là, puis ils vont vraiment juste vouloir parler « Ah, je m'ennuie de ma baguette, puis je m'ennuie de la Tour Eiffel, puis je m'ennuie de Paris, blablabla. » Mais il y en a beaucoup de ceux-là, ils vont retourner en France aussi. Là. Ils resteront pas. Parce que ça reste que le Québec, c'est un pays nordique, puis il y a le mode de vie qui va avec. Puis si t'adoptes pas le froid pendant presque 6 mois par année, puis le mode de vie qui est un peu différent... Mais c'est ça, ça dépend des cercles, moi, je pense. Il y a vraiment des Français qui vont vraiment embrasser la culture québécoise, puis écouter les artistes québécois, puis consommer des films québécois. Puis il y en a d'autres que dont. Ils vont continuer à faire leur petite vie, puis ils vont vivre comme ils habitaient en France, mais ici. C'est, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Ouais.
Vous avez acheté où ce Diabolo, en France ou ici?
En fait, c'est mes grands-parents qui me l'ont emmené de la France dans un colis.
Oui, j'ai juste pas la crèche.
Il doit passer.
Ici, je trouve que tout est calme. Déjà, vous arrivez à l'aéroport et c'est calme. Dans les démarches administratives, les gens sont d'une gentillesse puis d'une patience pour tout expliquer. Il n'y a jamais de...
Ouais, je pense, de façon générale, niveau de stress, moins 1000. Quoi. Ouverture d'esprit. On ne se sent pas jugé. Les gens sont plus ouverts, plus curieux, et puis plus gentils. Il y a un côté candeur naturelle qui est super, super agréable. Quoi.
Pas de sentiment anti-français, là hein?
Pas vraiment, non.
Ils nous l'avouent après.
Alors, ils l'ont pas dit.
Ouais, c'est ça. Non, Simon m'a dit plusieurs fois, t'es vraiment cool pour une Française ou... Mais c'est plus sur le ton de la plaisanterie.
Puis à notre époque, là, faut relativiser un Français à Montréal, c'est très banal. Hein.
Oui.
Donc, je pense que c'est moins stigmatisé.
C'est pas mal les montagnes russes. Hein. Ça passe de l'euphorie à qu'est-ce qu'on fout là, à
envisager le retour,
ouais.
À se dire que finalement on rentrera jamais,
ouais.
À se dire que le mieux c'est peut-être pas y penser puis pas avoir de plan.
C'est ça.
Avec aussi le côté, est-ce qu'on devrait pas aller encore ailleurs?
Ouais, c'est ça.
Yeah, parce qu'il y a un vrai plaisir en fait à quitter un lieu dans lequel on a des habitudes, un quotidien établi pour découvrir un nouvel endroit, se recréer des habitudes, parce que ça nous transforme. Donc il y a un côté un peu grisant en fait. Donc, à un moment, on hésitait à repartir, mais ailleurs.
Où ça?
Ou le fond de porte.
Aux États-Unis, ou en Asie.
C'est sûr que c'est une expérience qui est difficile, mais c'est un côté grisant de tout recommencer comme ça. D'arriver, puis d'être comme tout neuf, les gens n'ont pas d'a priori.
Forcément, ça redéfinit notre quotidien, et ça doit redéfinir notre façon d'être. À l'intérieur, on est obligé de changer aussi.
Je pense que ça peut vite devenir une drogue. Parce qu'en fait, le fait d'avoir tout quitté, puis de s'être séparé de tout, on l'a plus cette peur-là, on l'a déjà fait une fois.
Expatrié français, le rêve canadien, c'était un reportage d'Élodie Vergelati.
Avec nous ce matin en studio, Catherine Vitol de Vinden. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS CERI, spécialiste des questions de migration. Les Français sont de plus en plus nombreux, donc ces 10 dernières années notamment, à émigrer, à partir vivre à l'étranger, s'expatrier. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Parce que c'est une question qui fait un peu polémique sur le plan politique.
Non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, la mobilité dans les parcours professionnels est fortement valorisée. Et beaucoup, pour renforcer leur CV, comme ils disent, éprouvent le besoin de partir dans des destinations diverses, qui sont souvent les mêmes, Londres, le Canada, par exemple, pour enrichir leur expérience internationale. Et donc, c'est assez valorisé, en réalité, pour beaucoup de cursus professionnels. Celui qui reste toujours toute sa vie dans son bureau, c'est plus nécessairement un modèle professionnel aujourd'hui. Donc, il y a une valorisation de la mobilité quand il s'agit de nous-mêmes, de nos compatriotes.
Et dans le même temps, la France accueille aussi des gens de pays étrangers qualifiés. Donc, il y a un solde qui est pas forcément négatif
absolument.
À ce niveau-là.
La moyenne de qualification des nouveaux entrants est supérieure à la moyenne de qualification des nationaux, chose qu'on a souvent tendance à oublier. On a toujours tendance à penser que ça va être un travailleur manuel qui va venir dans des métiers très peu qualifiés. Mais aujourd'hui, même des gens qui apparaissent peu qualifiés sont souvent beaucoup plus qualifiés que les nationaux. Même les Afghans de Sangatte ou d'autres venant d'autres pays sont souvent des gens qui ont un niveau scolaire non négligeable, avec plusieurs langues, des compétences techniques, etc.
Donc le phénomène n'est pas forcément inquiétant selon vous. Ceci dit, sur les raisons qui poussent à partir vivre à l'étranger. Donc, vous l'avez dit, il y a
la valorisation du CV,
CV. Est-ce qu'il y a aussi quand même une ambiance économique, sociale difficile en France aujourd'hui qui pousse à ça?
Tout à fait. Il y a la recherche d'un mieux-être. Le coût du logement, notamment à Paris, par exemple, peut être un facteur pour des gens qui cherchent plus d'espace, etc. Le rêve aussi des grands espaces, de trouver des opportunités qu'on ne trouve pas chez eux, dans leur lieu de travail. Tout ça, ça ajoute à l'envie de partir.
Parce qu'on dit parfois que les Français n'ont pas tellement cette habitude d'émigration. Est-ce que la France n'était plus
L'a été un peu, mais jamais dans des proportions considérables, pour des raisons, démographiques. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un début de déclin démographique à la fin du XVIIIe siècle et que la France était un pays plutôt prospère économiquement. On a eu deux révolutions industrielles au cours du 19e siècle. Et donc, les Français sont plutôt... Puis c'est un pays rural à 75%, il y a 100 ans. Ce qui fait que les gens étaient attachés à leur terre. Et on a eu à peu près... on a eu peu de départs à l'étranger. Aujourd'hui, on a à peu près 2 millions seulement de Français qui sont à l'étranger. Donc, c'est pas beaucoup par rapport à beaucoup d'autres pays. Et faut pas oublier que, par exemple, en Italie, entre 1860 et 1970, 31 millions d'Italiens sont partis à l'étranger. Donc, c'est colossal par rapport à la proportion française. Ces Français à l'étranger sont partis dans des filières, si j'ose dire, qui étaient un peu spécifiques. Par exemple, on a le cas des Barcelonnettes, qui étaient des colporteurs de tissus, qui sont partis au 19e siècle au Mexique pour vendre du tissu, puis après construire les grands magasins, les métiers de la mode. On a les Johnnies, qui étaient des vendeurs d'oignons bretons, qui allaient vendre leurs oignons en Angleterre. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'était une tradition. On avait ce qu'on appelait les ramoneurs savoyards, qui étaient en fait, y compris du temps où la Savoie n'était pas française, qui venaient faire les ramonages dans les grandes villes françaises, par exemple. Donc, on avait une petite tradition de petits artisanats, si j'ose dire, qui s'expatriaient comme ça, parfois de façon frontalière ou saisonnière même, à l'étranger. Mais ce n'étaient pas des grandes masses.
Et on renoue peut-être avec ça aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi là un effet de la mondialisation et que c'est un phénomène qui est appelé peut-être à se renforcer, à ce que de plus en plus de gens partent comme ça?
Oui, je pense. Je pense qu'il y a le côté Valorisation de la mobilité. Alors, on valorise la mobilité pour nous. Souvent, dans l'opinion publique, on ne valorise pas trop la mobilité pour les autres, et notamment quand ils viennent de pays extra-européens. Mais on est dans un monde qui valorise, donc, comme forme de modernité, les expériences de mobilité et de migration. Donc ça, c'est un premier élément. D'autre part, les gens sont quand même beaucoup plus que dans le passé à la recherche des opportunités. Donc ils se disent qu'à l'étranger, ils vont pouvoir trouver des niches qui leur permettront mieux de valoriser ce qu'ils ont envie de faire, peut-être de façon plus libre aussi que dans les carcans nationaux ou européens. Ce qui explique la recherche des grands espaces, pas seulement géographiques, mais des espaces d'opportunités. D'autre part, beaucoup de gens ont beaucoup plus voyagé aussi que dans le passé. Donc, ça leur fait moins peur de partir. Il y a une sorte de, je dirais pas de village mondial, mais l'idée que finalement, si on est qualifié, on peut se retrouver assez bien à la fois dans les pays européens, mais aussi au-delà, est une chose qui est beaucoup plus communément partagée. On parle plus de langues aussi que dans le passé, ce qui fait que les gens considèrent qu'ils ont plus d'atouts pour pouvoir partir sans grand risque.
En même temps, on entend dans le reportage d'Élodie Vergelati que des fois, il y a quelques désillusions. Ça demande des efforts aussi de partir, de s'adapter. Ça ne va pas forcément de soi.
Tout à fait. Je crois qu'on sous-estime les modes de vie. Dans le cadre du Canada, par exemple, c'est un pays qui a beaucoup d'attractivité pour les qualifiés et qui veulent s'installer, acquérir la nationalité. Mais en même temps, les blocages, ils ne sont pas dans la politique nationale, ils sont dans les ordres professionnels, par exemple. Valoriser ses diplômes peut être assez difficile. Il y a une blague canadienne qui consiste à dire, si vous voulez un bon généraliste, appelez un taxi. Ce qui veut dire qu'il y a une déqualification très forte de gens qui sont des réfugiés ou alors des gens qui ont tenté leur expérience dans leur profession sans succès. Donc, c'est pas facile. Et puis, il y a des tas de métiers qui sont saisonniers. Par exemple, je suis allée récemment à l'Université Laval, donc au Québec, sur l'île d'Orléans, qui est en face de la ville de Québec. Même le prêtre était saisonnier. C'est un métier qui n'est pas entièrement saisonnier, mais souvent, on n'arrive pas à trouver le statut qui correspond à son aspiration. Il y a énormément de métiers qui sont saisonniers dans le statut canadien, mais qui en réalité n'ont aucune raison d'être saisonnier parce que prêtre, il y a des enterrements et des mariages toute l'année, etc. Donc il y a une certaine fragilisation d'un certain nombre de gens, ce qui sous-estime. Et puis faut s'adapter à un mode de vie, à le froid. C'est un peu l'Amérique en français, si j'ose dire. Donc faut aussi s'y adapter. Et puis des modes de sociabilité qui peuvent être aussi assez différents de ce qu'on a en France, par exemple.
Merci, Catherine Vittel-de-Vanden. Interception est réalisée par Anne Lioreau, assistée de Stéphane Combe et Christine Kern. Le mixage du reportage a été assuré par Pierrick Charles. Toute l'équipe d'Interception est profondément attristée par la disparition brutale dimanche dernier de Bruno Martin, chef opérateur du son à Radio France, qui avait beaucoup travaillé avec nous pour ce magazine. Nous nous associons à la douleur de ses proches. Bonne semaine et à dimanche prochain.